chronique terrienne, parce que nous voulons des coquelicots et des abeilles. Une fois par mois, sur Radio Saint-Aff, par Cécile Blanche.
Eh bien, voici un nouvel épisode des chroniques terriennes de cet été. Vous avez remarqué qu'il n'est plus, ou presque, question de pesticides. Je vous parle des peuples dits primitifs ou autochtones. Mais je ne suis pas très loin de cette problématique. Les pesticides font partie intégrante de notre système d'exploitation de la terre jusqu'à l'extinction de notre espèce. Et il se trouve ce système, et beaucoup ont déjà disparu. Cette diversité des cultures, des civilisations, fait partie de la biodiversité dont nous crions aujourd'hui qu'elle nous est indispensable. Je vous propose de nous pencher sur le sort des peuples de Taïmyr. Vous en avez déjà entendu parler ? Eh bien moi, pas avant de tomber par hasard sur un petit fascicule de poésie écrite par des enfants de Ganassan, l'un des peuples de Taïmyr. Du coup, je suis allée voir où c'était et ce qu'était ce peuple Ganassan. Et pour commencer, un peu de géographie. La péninsule de Taïmyr est une péninsule russe du nord de la Sibérie centrale, qui forme la partie la plus septentrionale du continent asiatique. Elle est délimitée à l'ouest par la mer de Kara et à l'est par la mer de Laptev. Le point le plus au nord de l'Asie, le cap Tcheliouskine, est situé sur la péninsule. Nous sommes donc dans l'Arctique sibérien, c'est-à-dire en conditions extrêmes. Mais où l'homme, grâce à ses capacités d'adaptation, son inventivité, a pu survivre et créer un mode de vie compatible avec les rigueurs du climat. Cependant, il n'y a pas que les hommes. Dans cette région, faune et flore ont 2 mois par an pour assurer leur reproduction. Et ils y arrivent. Chaque été, le soleil de minuit rassemble des multitudes d'espèces. Les rennes migrent et côtoient des milliers d'ours blancs et de phoques. Enfin, je ne sais pas s'ils sont toujours des milliers. On dit tellement de mal des conditions que l'homme a créées pour ces pauvres bêtes. À leur tour, les oiseaux d'Europe, d'Afrique et d'Asie viennent former au Taïmyr la plus grande poussinière sauvage du monde. Et un mammouth y a été découvert. Enfin, son squelette, bien sûr. Il s'agirait d'un mâle mort à l'âge de 15-16 ans, il y a 30 000 ans. Dans cette région vivent plusieurs peuples sibériens. Les Nganassan, les Enets, les Nenets et les Dolgan, de loin les plus nombreux. Environ 5 000 individus pour 850 Nganassan, par exemple. Ce sont des peuples sans écriture, qui mènent une vie de nomades ou semi-nomades. Ils survivent grâce à la chasse aux rennes sauvages, à la pêche et également, pour certains, à l'élevage de rennes domestiques. La presqu'île de Taïmyr fut hermétiquement fermée aux étrangers jusqu'en 1991. Mais des ethnologues russes, dans les 70 années précédentes, ont pu approcher ces sociétés et recueillir de nombreuses informations sur leur organisation sociale, sur leurs croyances et le système religieux chamanique. Cependant, les peuples de Taïmyr furent soumis à la collectivisation dès 1938, et ces sociétés en furent radicalement et définitivement transformés. Si bien que la société de nomades dépeinte par les ethnologues russes paraît fort loin de la réalité d'aujourd'hui et pourrait être qualifiée d'ethnographie de musée. J'ai pris le parti de vous parler de ce qui fut, mais aussi de ce qui est aujourd'hui. Nous allons évoquer surtout les Nganasan, car c'est sur eux que j'ai trouvé le plus d'informations, grâce aux travaux de l'ethnologue français Jean-Luc Lambert, et avant lui, du premier ethnologue russe, Dolkik, à avoir fait de longs séjours parmi eux au début du XXe siècle. Avant la collectivisation, les Nganasan, chaque printemps, partaient dans le nord de la presqu'île en suivant les migrations de rennes sauvages, pour revenir à l'automne dans le sud, à la frontière écologique entre toundra et forêt, où ils installaient leur campement d'hiver. Leur économie était basée surtout sur la chasse aux rennes. Ce parcours coïncide avec les axes privilégiés par les Nganasan pour structurer leur espace, et ces orientations sont surtout déterminées par la course du soleil. Le soleil se lève au sud au sortir de la nuit polaire. Puis, petit à petit, il se lève de plus en plus vers l'est jusqu'à l'équinoxe de printemps, où il se lève carrément à l'est, comme chez nous. Le lever et le coucher du soleil se rapprochent peu à peu pour coïncider avec le nord géographique au premier moment du jour polaire. Les Nganasan définissent un côté de la toundra par opposition à un côté de la forêt. Le côté forêt est celui du lever du soleil, et le côté toundra est appelé côté de la nuit. Il est associé au monde des morts. L'entrée de la hutte donne sur le côté forêt. Le côté opposé et celui où le chaman s'installera quand il aura à officier. Et il est interdit aux femmes de le traverser. Le système religieux des Nganasan et le chamanisme. Faisons un petit détour chez Mircea Eliade pour préciser ce qu'est le chamanisme. Tout d'abord, il semble être une caractéristique des peuples arctiques, même si le chamanisme existe dans d'autres sociétés. Le chamanisme est défini comme un ensemble de méthodes extatiques et thérapeutiques dont le but est d'obtenir le contact avec les esprits et leur appui dans la gestion des affaires humaines. Chez les Nganasan, c'est un puissant chaman qui doit conduire la fête particulièrement importante organisée au sortir de la nuit polaire, c'est-à-dire fin janvier. Toute la communauté Nganasan y participe. C'était la principale occasion de rencontre pour ces nomades. Le reste du temps, ils vivaient dispersés sur un immense territoire. Et c'était l'occasion pour les jeunes célibataires de s'apparier. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'en reste rien. Les Nganasan ont été regroupés en 3 villages où ils côtoient des Russes et des Dolgan, autres ethnies de Sibérie septentrionale. Le dernier chaman est mort en 1989 et de toute façon, avant cela, ils avaient été persécutés, déportés par l'administration russe. Les Nganasan survivent aujourd'hui grâce à la chasse et à la pêche. Ils ont oublié leur langue, leurs traditions et l'alcoolisme fait des ravages. Les seules informations sur le passé des Nganasan aujourd'hui viennent de quelques-uns qui étaient proches des chamans et qui peuvent décrire et expliquer les rites, raconter et commenter les mythes. Mais ils ont maintenant, s'ils sont encore en vie, plus de 80 ans. De ces quelques informations sur les Nganasan, nous allons pouvoir passer au mythe. Ah oui, j'allais oublier. Nganasana veut dire homme authentique. Ce qui est une habitude chez les peuples autochtones de considérer qu'ils sont des vrais hommes ou les vrais hommes. Dieu créa d'abord la terre, puis l'eau la couvrit entièrement. Il y eut un canard qui était sur l'eau. « Ah !» cria-t-il, et il plongea dans l'eau. Puis il surgit avec dans son bec une motte de terre. Il replongea plusieurs fois, rapportant toujours des mottes de terre. Ainsi, un petit monticule se forma. Petit à petit, il s'agrandit, et au sommet, naquit le soleil. Celui-ci réchauffa la terre, et de l'herbe poussa. Le sol commença à sécher tout autour, et la terre apparut. Tout cela grâce au canard laborieux. Le niveau de l'eau, une fois baissé, le sommet du versant nommé Koikaou surgit. À cet endroit apparurent, on ne sait d'où, deux hommes. L'un d'eux dit « Allons voir le dieu Deibangu, le protecteur des humains, pour lui dire qu'il faut que les êtres humains naissent sur terre. » Sur ces mots, ils partent auprès du dieu des humains, on ne sait pas comment, peut-être bien en s'envolant. Peu de temps après, ils reviennent. À cette époque, il n'y avait pas de grandes étendues d'eau, mais seulement des lacs et des rivières. Que cette eau reste, décidèrent-ils. Les gens pourront ainsi pêcher. Voici une autre version de la création de l'univers. Lorsque la terre apparut, il n'y avait que des cimes. Deux mottes de terre se détachèrent du versant qui surplombait une rivière. Les mottes de terre tombèrent sur le sable au bord de la rivière et se transformèrent en hommes. Entre les montagnes, il y avait une sorte de cuvette à fond plat et égal. Ici, un petit osier poussa et deux enfants, une fillette et un garçon, naquirent. Au début, les enfants se nourrissaient d'herbe. Plus tard, lorsque la terre s'accrut et que les enfants grandirent, ils firent leurs premiers pas sur terre. Ils rencontrèrent des reines mâles, qu'ils attachèrent avec une ficelle faite en herbe. La fille eut deux enfants, une fille et un garçon. Le reine femelle engendra deux petits. Ils vivaient tous ensemble, quatre hommes et quatre reines. Les enfants grandirent et donnèrent naissance à d'autres enfants. Leurs parents eurent encore deux enfants. Les reines firent de même. Cependant, deux reines brisèrent la corde et s'enfuirent. Ainsi apparurent les reines sauvages. À cette époque très ancienne, où la terre prit forme, les femmes enceintes, en attendant d'engendrer, contempler la lune qui devait leur signaler la date de naissance de leurs enfants. Le chaman était le seul à pouvoir atteindre la lune pour se renseigner sur les délais de naissance et annoncer les nouvelles aux femmes. Ainsi, le chaman partit en direction de la lune. Les femmes l'attendirent longtemps, mais en vain. Le chaman atteignit la lune, mais la lune se cacha. Elle alla demander conseil à sa mère, qui la conseilla de ne pas lâcher le chaman et de lui proposer de l'épouser. La lune suivit les conseils de sa mère et finit par persuader le chaman de devenir son mari. Il se serra contre la lune, son épouse, et ils restèrent ainsi enlacés. À présent, tous les gens voient comment le chaman embrasse sa femme la lune. Ce chaman était un homme de chez nous, un Ganasan Avam. Ce n'est pas une légende, c'est la vérité.
Thank you.
Pour finir, je vais vous lire l'un de ces poèmes d'enfant Ganassan que j'évoquais en introduction. En automne. Dans la toundra, les vents froids promènent. Les beaux oiseaux dans le midi sont partis. Ma grand-mère les brodera tous sur un tapis. Et sur le mur, ils seront mis. Les chroniques terriennes se terminent ici. Nous quittons ces peuples de l'extrême, là. Et je vous parlerai la prochaine fois d'Afrique. À bientôt !